Pronto, pronto. Cédric Canal qui vous accueille en ce lundi 25 mars pour parler de la Nationale en ce numéro 72 de Pronto Calcio. Autour de la table virtuelle, Antoine Aiello. Salut Antoine.
Salut.
Comment vas-tu?
Ben, ça va, c'est un lundi ensoleillé à Paris. Je me réveille avec vous trois, je me réveille plus.
Alors, vous trois, effectivement, puisqu'il y a aussi avec nous Nicolas Wagner. Salut Nicolas.
Ciao Cédric, ciao à tutti.
Toi aussi, tu vas bien? Un week-end où ni Udinese ni Le Havre n'a perdu, c'est forcément un beau week-end.
Et donc forcément, ce matin, je vais bien parce que nous avons aussi le soleil en Normandie, c'est quelque chose de rare, donc on en profite.
Alors, pas de Raphaël Gauthier avec nous aujourd'hui. On salue notre duc, Raphaël Gauthier, qui a des impératifs professionnels, mais on a un invité de très très grande qualité, on l'accueille juste après le générique. C'est la nationale del 2006, ma dentro casa col vestito da sposa. Sei il finale migliore di tutti i film che possiamo guardare prima di andare a dormire. Et avec nous pour parler de la Nationale, Andrea Chazy, journaliste à SoFoot. Salut Andrea.
Ciao Cédric, salut à tous.
Comment vas-tu? Alors toi, tu es pas loin de Paris aussi, donc j'imagine que le soleil est le même que pour Antoine, c'est ça?
Bah, j'ai hâte d'aller le rejoindre. Juste après le podcast, on va aller goûter ce soleil qui m'a l'air radieux en ce lundi 25 mars.
Je croyais que tu allais dire on va aller goûter les pizzas d'Antoine, mais non.
Ah aussi, soleil. Aussi, allez-y parce qu'elles sont très bonnes. Donc honnêtement, n'hésitez pas. Et même si c'est pas les pizzas, c'est le resto aussi juste en face. Parfait, allez-y.
Voilà, on rappelle Domenico's, Fratellino, rue Saint-Lazare à Paris.
On peut pas se tromper.
Exactement. Et on ne peut pas se tromper également en t'invitant pour parler de la Nationale, puisque l'on sait que tu es un suiveur assidu et donc de cette équipe des Azzurri, qui a donc joué deux fois en trois jours, deux matchs amicaux aux États-Unis, tournée commerciale avant tout pour la Nationale. Il y a eu pas mal d'événements autour des hommes de Spalletti, mais il y a aussi eu deux matchs avec 24 joueurs testés, avec 22 titulaires différents. Il a fait 2-11 complètement différents, mais en gardant le même schéma tactique que Luciano Spalletti. Donc, vit des succès 2-1 contre le Venezuela et 2-0 contre l'Équateur. Alors, avant de rentrer dans les débats, qui seront principalement la défense à 3, Retegui, ce sont les deux thèmes principaux, et puis aussi parler un petit peu de quel 11 on peut attendre pour l'Euro. Déjà, sur ces deux matchs-là, Andrea, qu'est-ce que tu en as retenu, toi, de ces derniers tests, il faut le préciser, avant la liste pour l'Euro?
Bah, tu l'as déjà un petit peu dit, Cédric, c'était une large revue d'effectifs, cette tournée américaine pour la Nationale, et avec l'opportunité pour Spalletti d'à la fois, on l'a dit en préambule, tester un nouveau système avec la défense à 3, qui est, pour ceux qui, même si ceux qui est contre Pronto Calcio le savent, mais voilà, grosso modo, la défense à 3, c'est celle qui est utilisée en Italie par la plupart, on va dire, des grandes équipes, en tout cas des équipes du top 10. Et puis aussi de voir un petit peu à chaque poste qui allait marquer des points et qui n'allait pas en marquer. Alors certains l'ont fait, je pense évidemment à Retegui qui, de toute façon depuis quelques mois, en marque quasiment à chaque fois qui vient en national, et d'autres peut-être un petit peu moins. Je pense qu'on va y revenir, mais voilà, sur les deux matchs, c'est difficile de tirer des enseignements sur des matchs amicaux du mois de mars, parce que même on l'évoquait hein, avant que le podcast ne commence, c'est une période un peu charnière de l'année, parce que mois de mars, pas mal de joueurs en club sont encore engagés dans des compétitions européennes avec des échéances, donc il y a cette volonté non plus de ne pas se blesser, surtout à 3-4 mois de l'Euro, où forcément tu mets peut-être un petit peu moins le pied, un petit peu moins d'énergie. Mais moi, ce que j'ai retenu de ces deux rencontres, déjà, c'est un effectif qui offre pas mal de possibilités à Spalletti, je trouve. On le savait déjà, mais dans les profils, notamment offensivement, où sur donc les 3-4-2-1, les deux qui étaient derrière l'attaquant, on a des profils assez différents et qui peuvent, selon moi, être une option intéressante en vue de l'Euro. Voilà, notamment, on l'a vu sur le deuxième match, Pellegrini, qui de toute façon, depuis le départ de Mourinho, même, est dans une forme assez, assez intéressante.
Pellegrini, tu as raison de le dire, c'est quand même depuis le départ de Mourinho, enfin depuis 2 mois dans sa carrière, c'est 7 buts. 5 en Serie A, 1 en Europa League et donc 1 en National. C'est vrai qu'il marche un petit peu sur l'eau. On a presque peur qu'il soit pris trop tôt, parce qu'il faudrait qu'il soit comme ça dans 2 mois. Mais c'est vrai qu'il est clairement dans l'une des meilleures phases de sa carrière, et que ce soit dans un rôle derrière l'attaquant ou un peu plus milieu. C'est vrai qu'il a aussi cette dualité tactique qui semble quasiment lui donner une place quasiment assurée maintenant dans le 11 de Spalletti.
Il y a vraiment une libération presque. Tu sens qu'il a retrouvé le goût pour le foot. Et ça fait plaisir, mais voilà, pour faire Pour finir là-dessus, c'est je trouve que certains cadres ont confirmé, de toute façon, qui seraient dans le 11 et qui feraient partie du 11. Je pense à Donnarumma, à Barella. Je pense aussi que Jorginho aussi, le sera aussi. Après, sur pas mal d'autres postes, à mon avis, c'est un peu plus ouvert. Mais il y a une colonne vertébrale qui se dessine tout doucement dans cette nationale. Et puis, encore une fois, c'est des matchs amicaux. On l'a vu notamment aussi avec la France contre l'Allemagne. Il ne faut pas tirer non plus d'enseignement définitif parce que on connaît les équipes championnes des matchs amicaux et celles qui performent dans les compétitions officielles. On sait que l'Italie est plus forte dans cette deuxième phase. Donc, voilà, attendons. Mais je trouve qu'il y a eu des choses intéressantes sur ces deux matchs, même s'il ne faut pas non plus tirer de bilan définitif.
Oui, surtout que l'adversité n'était pas excessivement élevée. Antoine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces matchs-là? Et je vais peut-être te diriger un petit peu vers un secteur de jeu que tu connais bien, puisque tu joues dans ce secteur-là, c'est la défense. Une défense sans Francesco Acerbi, puisque eh bien, il a été écarté de la nationale de façon préventive, on va dire, par rapport à l'histoire, on va dire, supposée aussi, puisqu'il n'y a pas encore eu le jugement lorsque l'on enregistre. Il devrait tomber entre ce lundi et ce mardi pour supposer phrase raciste envers Juan Jesus. Mais donc, Acerbi a été écarté. Du coup, on a vu, alors que la défense à 3, clairement, elle était dessinée aussi en partie pour lui et pour un bloc inter, on va dire, puisqu'on le voit que défensivement, on l'a vu lors du deuxième match amical d'ailleurs, c'était Bastoni et Darmian avec Mancini qui a remplacé Acerbi. Donc certainement, dans l'esprit de Spalletti, c'était de mettre le bloc inter avec Di Marco et Bellanova en piston, qui faisaient la défense de l'Inter la saison passée quasiment.
Quasiment.
Mais donc, par rapport à la défense, qu'est-ce que tu en as pensé? Et peut-être par rapport à Buongiorno aussi, qui avait une chance quand même assez importante, qui, selon moi, dans le premier match, ne l'a pas forcément saisi. Dis-nous un petit peu ce que tu as pensé du secteur défensif.
C'était plus compliqué pendant le premier match parce que même si il y a plusieurs joueurs dont parce qu'il y avait aussi Scalvini qui jouait le premier match, il y avait plusieurs joueurs qui étaient habitués à qui sont habitués à jouer à trois derrière, bah, ils n'ont pas forcément joué ensemble. Notamment, il y a eu une belle erreur défensive sur le but du Venezuela sur la passe de Buongiorno. Enfin, sur
C'est
Bonaventura.
Bonaventura qui fait une passe vers Buongiorno, mais qui rate un peu sa passe. Buongiorno qui n'est pas forcément hyper concentré non plus.
Exactement. Après, c'est quand même un peu le comble parce que justement, une des raisons pour lesquelles il passe à 3 derrière aussi, c'est qu'il peut mettre 4, voire 5, si on compte Bellanova qui a fait aussi depuis son année à l'Inter, il peut mettre la défense de l'Inter qui est ultra performante. Et malheureusement, à cause de l'affaire, à se demander si cette sélection, il y a toujours des affaires à chaque rassemblement entre le départ de Mancini l'an dernier de manière rapide et la police qui rentre à Coverciano pour récupérer Tonali et Zaniolo. On se demande s'il y a pas, enfin, s'il peut pas être un peu tranquille cette sélection pour bosser. Scalvini un peu tendre, et je pense d'ailleurs que vu que Mancini a plutôt fait des bonnes performances. Si Acerbi n'est pas suspendu et qu'il va à l'Euro, je pense que celui qui a perdu un peu de crédit en sélection, c'est Scalvini. Et après, Darmian, il a joué hier soir. Darmian, toujours très bon. Parfois, il se décalait sur le milieu. Hyper performant. Mancini, qui est un peu boudé par les sélectionneurs parce qu'il a des sauts de concentration et qu'il est un peu irrégulier, finalement, ça l'arrange bien aussi la défense à 3 parce que je pense qu'avec deux d'à côté de lui, il est bon parce que c'est quand même un bon relanceur aussi. Mais je pense que si on doit faire un petit, voilà, un petit top et flop, des points marqués par Mancini et malheureusement Acerbi qui est pendu à son verdict de la commission et Scalvini qui a perdu aussi quelques points parce que je pense que bon, après il a 20 ans, 21 ans, donc il est encore un peu tendre, mais je pense que lui par contre, s'il y a un qui doit sauter, je pense que ce serait lui en défense parce il a manqué un peu d'expérience et de niveau pour jouer comme ça.
Alors, oui, Scalvini qui avait été déjà titulaire fin 2023 avec la Nationale. Il y avait aussi Gatti qui avait été titularisé. Il y avait eu Buongiorno. Ça avait pas mal tourné. Il y avait notamment une blessure de Bastoni qui avait un petit peu obligé, on va dire, le sélectionneur à faire des tests. Andrea, un petit mot sur la défense. Ensuite, on passera au secteur offensif avec Nicolas. Moi, je reviens un petit peu sur Buongiorno qui m'a un petit peu déçu. Notamment, alors, c'est un petit peu ma thèse, c'est qu'il fait des bonnes choses en Serie A, très très bonnes choses même. Mais que l'on sent la différence tout de même, et ça va aller un petit peu au-delà de lui, la question, par rapport à tous les joueurs. À chaque fois, lorsque c'est nouveau, on se dit, il faut le mettre, il faut titulariser. Et puis finalement, on a Mancini, qui lui a l'expérience, qui est peut-être un peu moins brillant, on va dire, en club ou en général dans le jeu, mais qui a l'expérience, qui sait ce que c'est le niveau européen, qui sait ce que c'est le niveau international, et qui du coup répond aux attentes. Alors comme Buongiorno, Ben voilà, il est au Torino, il fait bien, mais il est au Torino. Il n'a pas encore joué en Coupe d'Europe et il a peu joué en National. Et on sent que malgré tout, il y a un gap, notamment au niveau des petits détails. Le penalty qu'on concède, par exemple, il est bête. C'est pas lui qui fait l'erreur, il la rattrape, mais voilà, il accroche le joueur dès la deuxième minute. Et voilà, c'est le genre de petite erreur qui ne devrait pas avoir lieu, non?
Bah, totalement, bah, je crois que t'as grosso modo tout dit. C'est là où on voit au niveau international l'expérience entre les joueurs qui sont habitués à disputer des échéances européennes et disputer justement ce genre de rencontres où les petits détails qui passent en Serie A passent pas en Coupe d'Europe. Et que ce soit Buongiorno, même Scalvini, c'est un peu pour moi le même problème, même si Scalvini est encore un peu plus jeune. Donc il y a cette raison-là aussi. Mais ce sont des joueurs qui n'ont pas encore été confrontés, du moins dans la durée, aux échéances européennes, aux joutes européennes, où justement le jeu va plus vite, où les attaquants sont plus rapides, plus robustes, plus techniques, plus expérimentés dans le cadre notamment du Venezuela. Et donc, il y a ce gap-là qui a passé. Et de toute façon, je pense que l'idée de Spalletti, quand il repasse à 3, c'est de garder l'assise défensive de l'Inter, qui est tout simplement qui est la plus impressionnante cette saison, quoi. Ou alors, à la limite, d'y intégrer pourquoi pas Gatti, peut-être de la Juve, qui est un peu plus expérimenté en termes d'âge et qui peut-être peut offrir plus de garanties quand il est entouré d'un Darmian et d'un Bastoni, qui est plus jeune, mais qui est peut-être l'un des défenseurs, je pense, les plus expérimentés, non? Je crois, de la défense à 3 en termes de
Oui.
rencontres européennes. Même si Darmian en a joué quelques-unes aussi, il me semble, en Angleterre avec Manchester. Donc, à mon avis, on se dirige vers cette défense à 3 avec la base de l'Inter, avec Di Marco à gauche, et soit Di Lorenzo, parce qu'on avait vu cette option aussi dans l'axe pour compléter ce trio si jamais, par exemple, Acerbi ne revient pas. Ou alors, on sait que Di Lorenzo, il peut jouer aussi piston, et donc, il est quasiment assuré aussi d'être dans cette ligne de 5-là, quoi. Notamment du fait même s'il est un petit peu moins bien en ce moment, contrairement notamment au début de saison où je trouvais c'était l'un des rares du Napoli de l'année dernière qui tenait encore la baraque de cette équipe. C'est le genre de joueur qui a la maturité et l'expérience aussi au niveau de Champions League, au niveau européen, pour assumer ce type de match. Donc, cette défense à 3, ce sera une défense à coup sûr basée sur celle de l'Inter, avec des ajouts de joueurs qui sont habitués aux joutes européennes, parce que quand on s'attaque à une compétition comme l'Euro, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Italie était allée loin, est allée au bout en 2021 et est allée très loin malgré un effectif plutôt faible en 2016, c'est parce qu'il y avait une assise défensive de très grande qualité et très expérimentée. Donc là-dessus, c'est sûr et certain que même un profil comme Mancini sera plus dans la rotation qu'un de ceux de Buongiorno ou Scalvini qui n'enlèvent pas leur talent, mais qui ne sont pas prêts, je pense, pour cet été.
Alors, on verra. Alors, il y a eu trois joueurs qui ont honoré leur première sélection lors de cette tournée aux États-Unis. Nicolas, on va aller voir avec toi. Alors, il y a eu Vicario comme gardien qui a fait un bon match. Première sélection pour le gardien de Tottenham qui fait une très très bonne saison aussi chez les Spurs. Tout à l'heure, effectivement, Andrea disait, pas de débat, Donnarumma sera titulaire. C'est le capitaine. Il a sorti un penalty lors du premier match. Le but encaissé, c'est une relance courte. On sait que c'est où il la met à Bonaventura. On va dire qu'il met un petit peu Bonaventura dans la merde, on va dire, pour parler crûment. Mais après, Bonaventura avait beaucoup mieux à faire aussi que cette passe. Donc, on va dire les torts sont un peu partagés. Mais Vicario, en tout cas, c'est montré, Nicolas, un numéro 2, on va dire, solide.
On pourrait même parler de numéro 1 bis, puisque Vicario fait une super saison à Tottenham. Et quand on voit les problèmes récurrents de Donnarumma dans le jeu au pied, on peut se demander si ça perdure éventuellement, si ça pourrait pas poser des doutes à Spalletti, même si je ne pense pas que il changera avant l'Euro. Mais en tout cas, on a une deuxième alternative au poste de gardien qui est très bonne et qui permettrait, en cas de blessure peut-être aussi ou de suspension, d'avoir un très bon gardien pour défendre les buts de la Squadra Azzurra cet été.
Il a bien fait, selon moi, Spalletti aussi, de le lancer, puisqu'on parlait d'expérience tout à l'heure. Bon, mais avant, il était à l'Empoli, après la Tottenham, Tottenham qui ne fait pas la Ligue des Champions cette saison, donc voilà. Donc c'était important aussi de lui donner un petit peu d'expérience internationale. Et puis, donc, de nouveau aussi dans les rôles de piston, Cambiaso qui a joué le premier match, qui a été pas mal. Mais surtout, Belanova, qui a fait une première mi-temps vraiment très bonne. Peut-être l'un des meilleurs de la première période. Puis ensuite, il a eu une petite douleur. Donc, ils ont préféré ne pas prendre de risque, assez logiquement, puisque lui aussi a une fin de saison à faire avec le Torino. Mais Belanova, c'est un petit peu. On en a parlé dans le podcast il y a quelques semaines, Antoine, mais c'est l'une comment dire, des belles surprises de ces derniers mois en Serie A. Elle est vraiment en train de s'imposer. On sent qu'il passe un cap, il passe les caps les uns après les autres. Et surtout, il n'a pas peur, parce que là, on le voit pour une match en national, il a pris son couloir, il a créé sur le côté droit. Donc, intéressant. On peut même se demander finalement s'il ne va pas arracher un extrémiste un billet pour l'Euro.
Ouais, je pense qu'il va l'avoir. Je pense que celui qui part peut-être en arrière là, ça va jouer entre Cambiaso et Udogie. Et je pense que Cambiaso va avoir le dessus parce qu'il peut jouer des deux côtés, il peut même jouer au milieu, il peut jouer partout. On va dire que sûr de leur place, c'est Di Marco, évidemment. Di Lorenzo, comme disait Andrea et Bellanova, je pense qu'il a pris sa place. Il est en telle forme, je ne le vois pas descendre de niveau de manière extrêmement forte sur les derniers matchs. Donc sauf blessure, ce sera ces trois-là. Et je pense qu'il y a un avantage pour Cambiaso sur Udogie, mais je pense qu'au niveau des pistons, on a vraiment de la qualité, on a de la technicité, on a vraiment là, je pense, des pistons de très très haut niveau qui savent centrer, qui savent pousser. Donc on va dire que je pense que pour la ligne défensive et pour la ligne du milieu, on est plutôt bien couvert, et ce sera mon cher ami Wagner qui va parler plutôt du côté qui est un peu plus compliqué de notre sélection depuis quelques temps.
Effectivement, on va passer à l'attaque dans un petit moment, puisque le milieu de terrain, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, Andrea. Jorginho Barella, qui. Alors, lors du premier match, effectivement, c'était Locatelli avec Bonaventura, et ça a été plutôt compliqué pour les deux. Barella est entré à la mi-temps, il a complètement changé l'équipe contre le Venezuela. Puis Jorginho est entré, pareil, les deux ont vraiment changé l'équipe. Puis ce dimanche soir, voilà, les deux ont été très bons. Nicolò Barella, qui a mis d'ailleurs un très très beau but, on l'écoute.
Eccolo servito Orsolini, velocissimo anche Barella, Orsolini lo vede, Barella scatta da solo davanti a Burnai e Barella segna un gol spettacolare.
Nicolò Barella, capitaine pour la première fois de la nationale pour sa 53e sélection et c'est le 9e but de Nicolò Barella. Il égale Francesco Totti avec 9 réalisations sous le maillot Azzurro. En revanche, Totti, c'était en 58 matchs. Voilà une petite stat en passant. Moi, sur l'action, quand j'ai vu partir, j'ai eu un petit remember de Madrid. Mais bon, s'il avait pu faire la même chose, bref, c'est comme ça. En tout cas, voilà, les deux, on a l'impression, que ce soit milieu à deux, milieu à trois avec Pellegrini ou n'importe, en tout cas, voilà, on a nos titulaires, Jorginho, Barella, c'est l'expérience. On est tranquille, non, avec eux derrière, des Locatelli, des petites Cristante qui peuvent venir, mais voilà, on est plutôt tranquille.
Ouais, bah c'est exactement ça. Et puis Barella, Jorginho, maintenant il y a une continuité aussi en sélection qui fait que tu es obligé, d'une certaine manière, notamment au milieu de terrain, d'avoir une base sur laquelle te reposer, quoi. C'est-à-dire que tu peux changer de système, tu peux lancer des nouveaux joueurs, etc. Mais quand tu attaques une compétition et que tu vas prendre toutes les équipes que l'Italie va affronter, je parle de l'Espagne, de l'Allemagne, etc., tu vas te retrouver avec des. Ou de la France, tu vas te retrouver avec des milieux de terrain de mecs qui jouent ensemble depuis des années, quoi. Donc, le fait qu'il y ait d'une certaine manière une continuité, et notamment dans cette équipe, dans ce 11, des joueurs qui aient remporté la compétition il y a 3 ans, ça te donne aussi quand même quand tu es sur le terrain, même pour les autres joueurs, ceux qui arrivent en sélection, une forme de voilà, je suis en train de courir à côté de gars qui savent comment gagner, qui savent comment aller au bout, qui savent comment gérer ces échéances face à des grandes équipes ou des matchs où je repense forcément au match contre l'Espagne d'il y a 3 ans, ou peut-être que pendant un très long moment, tu vas pas toucher le ballon, ou tu vas devoir faire des efforts, t'arracher, etc. Et de savoir que tu as Barella et Jorginho à côté de toi, qui en plus pour le moment sont à un niveau assez élevé, c'est quand même une belle certitude pour Spalletti, je pense.
Et donc, l'attaque, toujours des problèmes en attaque. Alors, des problèmes, oui et non, puisque lors du premier match, Retegui a claqué un doublé. Ça fait 4 buts en 6 sélections, si on intègre les 10 minutes qu'il a joué ce dimanche soir. Et il tourne à la moyenne à peu près d'un but chaque 90 minutes, donc en national. Beaucoup mieux qu'au Genoa, où il a un but toutes les 250 minutes à peu près. Mais bon, au Genoa, il a eu un début où il a dû s'intégrer, forcément, au foot italien, à l'équipe, où il a eu pépin physique aussi, où il est revenu avec pas mal de difficultés. Et on sait que pour lui, le côté physique dans la surface est assez important. Mais donc, Nicolas, est-ce qu'on a trouvé d'autres neufs, enfin? Est-ce que c'est cet Oliondo, toi qui connais bien le sujet en plus, avec Retegui, est-ce que voilà l'inspiration qu'a eu Mancini il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, d'aller le chercher, était une intuition juste puisque ben voilà il enchaîne.
Bah écoute, a priori, je pense qu'il répond sur le terrain. Tu as annoncé ses stats. À chaque fois qu'il joue, il est décisif, et c'est tout ce qu'on demande à un attaquant. Tu parlais du Genoa. Je pense que sans manquer de respect au club ligure, il est mieux servi avec la nationale qu'au Genoa. Et on le voit, c'est un attaquant de surface. Il est capable de marquer sans forcément se créer beaucoup d'occasions, mais il est là au bon endroit au bon moment, et c'est tout ce qu'on demande pour le neuf de la nationale. Et je pense que on a en tout cas le neuf qui sera titulaire cet été à l'Euro.
Zaccagni lo affronta Osorio, cerca lo spazio per il cross, lo effettua, non arriva Retegui, c'è Jorginho, la finta di Jorginho all'interno dell'area di rigore, Retegui, e sono due, ogni tiro un gol, non sbaglia il 9 dell'Italia, tornano in vantaggio gli azzurri.
Alors, transition tout trouvé, je vais vous demander, messieurs, on fait quel 11 à l'Euro? 15 juin, premier match contre l'Albanie. Alors, avant, il y aura deux matchs amicaux de préparation, mais bon, la liste sera faite. Certains pensent que peut-être Spalletti pourrait retourner à une défense à 4 malgré tout. C'est, il y a, voilà, parce que malgré tout, c'est 6 premiers matchs qu'ils avaient fait avec cette défense à 4. Lui, Spalletti parle même de défense à 3,5, puisque on va dire que l'axial droit, qui a été dit Lorenzo dans le premier match, Darmian dans le deuxième match, est un axial qui devient latéral en phase de construction. Et donc, et le piston droit qui devient un ailier. Donc, il y a un petit peu ce côté, pour reprendre le terme à la mode en italien, un peu de calcio liquido que l'on attribue à Inzaghi avec cette façon de changer les rôles, d'être assez fluide. Mais voilà. Donc, déjà, selon toi, Andrea, première question rapide, défense à 3, défense à 4, et ensuite on fera le 11 tous ensemble.
Moi, je pense qu'il va partir sur une défense à 3, notamment parce qu'il reste aussi deux matchs, si je ne dis pas de bêtises, aussi avant le début. Il y a la Turquie et la Bosnie, qui sont au programme de la nationale et avant l'Albanie. Et que si aujourd'hui il a commencé, il a débuté, moi c'est ce que j'attendais de voir. Est-ce qu'il allait débuter les deux matchs amicaux avec une défense à 3? Ou alors est-ce qu'après le premier match face au Venezuela, où justement on avait vu que bon, la défense à 3, ce n'était pas encore au point, il allait revenir à une défense à 4 tout de suite face à l'Équateur? Pour comparer et peut-être avoir plus de certitude. Donc pour moi, là, j'interprète sa volonté de continuer à 3, d'avoir dans cette idée de débuter à 3 à un moment donné. Alors peut-être que ce ne serait pas dès le premier match, parce que ce n'est pas encore au point, mais je pense que en tout cas, si ce n'est pas dès le premier match, ça va arriver à un moment donné dans la compétition, parce que je crois que c'est important pour lui aussi d'avoir une alternative. De pas être dans un système figé, dans un 4-3-3, certes qu'on sait qu'il maîtrise très très bien et qui a fait ses preuves pour l'Italie ces dernières années, mais je pense que cette volonté de jouer à 3 derrière et de jouer à 3,5 comme tu l'as dit, c'est en tout cas ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie d'imposer, je pense. Après, ce qu'il va réussir à le faire, je ne sais pas, mais à mon avis, je ne serais pas surpris que face à l'Albanie, en tout cas, on commence à 3 derrière. Donc peut-être que ce sera différent contre l'Espagne. Mais en tout cas, contre l'Albanie, je pense qu'il y a des chances qu'on voit cette défense à 3 tout de suite.
Effectivement, ce sera Albanie, Espagne, Croatie dans la phase de groupe, un groupe assez relevé. Alors, bon gardien Donnarumma, je pense que personne ne s'y oppose, même si Vicario fait de bonnes choses. Je vous regarde. Non, bon, allez, on reste sur Donnarumma titulaire et capitaine, avec sûrement Vicario en deux, et le poste de troisième gardien, ce sera entre Provedel, Meret, Carnesacchi, voire Di Gregorio, qui pourrait être l'invité de dernière minute, même si c'est assez rare pour le troisième gardien de voir un joueur arriver sans expérience. Donc, Meret, peut-être pour l'expérience, sera le troisième. Défense. Alors, pour l'instant, Acerbi est sélectionnable. Donc, alors, est-ce que selon vous, la défense titulaire, ce sera Darmian, Acerbi, Bastoni, Antoine?
Non, je pense pas titulaire. Je vois bien Dramène jouer un rôle pour rentrer, mais je ne pense pas que ce sera la défense titulaire. Si Xavi n'est pas suspendu, il sera titulaire avec Bastoni. Mais je vois plutôt un profil peut-être comme Gat et pas Mancini parce qu'il joue, il serait plutôt libéraux, mais je vois un mec un peu plus. Où il mettra un mec un peu robuste, où il mettra justement peut-être un Di Lorenzo pour donner le calcio liquido, comme tu dis. Mais je vois pas Dramène forcément démarrer titulaire.
Je sais que ça te plaît, ce football liquide, comme tout ce qui est liquide. Bref, Nicolas, toi qui as carrément fait le 11 en préparation, puisque tu es un élève studio, qu'est-ce que tu nous as mis comme défense?
Non mais ouais, moi je suis parti sur la défense de l'Inter, hein, Darmian, Acerbi, Bastoni. De toute façon, je pense que On l'a vu à toutes les grandes compétitions où l'Italie a bien fonctionné. Il y avait une assise d'un grand club. Avant, c'était la Juve. Mais là, je pense que Spalletti va s'appuyer sur ce qui fonctionne bien en Serie A, ce qui fonctionne très bien, même au niveau national, puisque c'est la meilleure défense du championnat.
C'est vrai qu'après la BBC de la Juve pendant des années, il n'y a pas encore de nom, mais ça peut être la Bidi, en quelque sorte, ou la Biadi, Diaby, bref. Tu es d'accord, Andrea, sur cette défense à connotation Inter, on en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, peut-être effectivement le troisième rôle, même si à Matteo Darmian, c'est compliqué de s'en priver parce que c'est jamais le meilleur, mais c'est jamais le moins bon de l'équipe, c'est jamais le plus mauvais, c'est toujours celui qui te fait le match. Comme on dit en padel, hein, qui te fait le match à 6, 6,5, quoi. C'est une sorte de valeur sûre.
Ben moi, je pense que ça va dépendre pas mal des adversaires aussi. Et aussi parce que l'Euro, vu que c'est un rythme assez soutenu où tu joues grosso modo tous les 4-5 jours, quoi, hein, en phase de groupe notamment, je pense que tout à l'heure, tu as eu raison d'insister sur l'importance du central droit. Parce que pour moi, c'est là où ça va bouger. Je pense que si Acerbi n'est pas exclu de la sélection. À mon avis, Bastoni-Acerbi, c'est quasiment sûr que ce sera dans le trio derrière. Et après, pour le poste de central droit, ça va dépendre aussi de l'adversaire, dans le sens où moi, je vois bien contre l'Albanie, si on en reste là, c'est-à-dire que Acerbi est sélectionnable, un Bastoni-Acerbi Di Lorenzo, justement pour que en phase de construction, en fait, tu te retrouves avec une forme de surnombre, d'une certaine manière, sur le côté droit, avec deux centreurs de qualité. Mais par contre, face à l'Espagne, par exemple, je vois plus un profil à la Gatti, ou même tout simplement, je sais pas, à la Mancini, etc., pour renforcer en fait la défense et peut-être voir un Di Lorenzo basculer directement dans un rôle de piston d'une certaine manière à ce que défensivement, ce soit plus solide, plus compact. Donc je pense que, voilà, à mon avis, Darmian Di Lorenzo, ça va être, les deux vont être en balance, peut-être avantage à Di Lorenzo par rapport à son passé en national et par rapport au fait que l'année dernière, c'est le capitaine du Napoli
Et
qui
de
mange un peu
Spalletti.
et de Spalletti aussi, donc un homme de main, un homme de base sur lequel il peut s'appuyer. Donc voilà, grosso modo, je pense que ça va jouer là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Darmian, ça ira à l'Euro, sûr et certain, quoi. Ça, c'est sûr.
Pour les pistons, Antoine nous a déjà donné son quatuor tout à l'heure. Nicolas, toi, est-ce que tu es d'accord? Bon, Di Marco à gauche titulaire, maintenant il n'y a plus de débat. Même lorsqu'il fait des matchs comme il a fait ce dimanche, un petit peu. On va dire tranquille, en plus il rate une belle occasion sur un centre de Bellanova, mais voilà, où il fait un match, on va dire normal, de toute façon, il n'y a plus trop de débat au poste, c'est désormais le sien. À droite, c'est un peu plus ouvert, puisqu'il peut y avoir les possibilités, effectivement, de Di Lorenzo, voire Darmian, qui peut aussi monter un cran plus haut. Et puis on a vu Bellanova faire des bonnes choses. Il y a Cambiaso qui peut aussi bien jouer à droite qu'à gauche. Toi, tu vois qui comme titulaire à droite?
Bah, étant donné que j'avais mis Darmian dans l'axe avec Acerbi et Bastoni, j'avais mis plutôt Di Lorenzo. Mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par Andrea et Antoine précédemment concernant le fait que ça peut bouger, que ça s'adapte à l'adversaire. Et je pense ouais, effectivement que Cambiaso a une belle carte à jouer puisque il est assez polyvalent, peut jouer des deux côtés malgré le fait que ça soit un gaucher. Donc ouais, je pense que ces gens-là seront certainement dans le groupe et ça va à gauche. Ouais, j'ai aussi peut-être Udogie parce que il est habitué aussi à jouer en première ligue et à connaît bien ces matchs-là à haute intensité. Et peut-être lui donner un petit avantage sur un autre, mais je pense que ça va jouer entre tous ces gens-là.
Alors au milieu de terrain, on a déjà un petit peu parlé, c'est vrai qu'il y a Barella, Jorginho tranquillement, qui seront titulaires. Derrière, Locatelli, Cristante, et mon avait-toi, Flatesi aussi. Je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, parce que Flatesi était dans les deux derrière l'attaquant. C'est un rôle qui, selon moi, peut mieux lui convenir, parce que dans les phases défensives, dans les phases de construction, il n'a pas la qualité encore, en tout cas du moins de Nicolò Barella, qui a beaucoup progressé ces derniers temps par rapport à ça. Andrea, Flatesi dans le 11 ou pas dans le 11 du coup, pour toi?
Pour moi, Fratesi pas dans le 11, dans le groupe des 23, mais pas dans le 11, parce que je pense que, bah déjà, comme on l'a dit, en fait, le passage à 3 derrière fait que tu n'as plus que deux places au milieu de terrain, donc forcément, ça réduit la valeur à ce niveau-là. Et du coup, forcément, même si tu te retrouves avec deux, on va dire, sorte de numéro 10, quoi, deux électrons libres derrière l'attaquant, pour moi, il y a des profils qui sont devant lui, déjà parce qu'ils sont titulaires en club, parce que Fratesi n'est pas encore à l'Inter, ou alors parce que du fait de leur passé avec la nationale et ils sont incontournables. Voilà, même si c'est un peu plus dur pour lui en ce moment, je vois pas Chiesa aller sur le banc s'il est physiquement apte et se faire prendre la place par Fratesi. Je pense que Pellegrini est devant lui aussi. Déjà, ces deux profils-là, c'est sûr et certain. Après, hein, je pense qu'on peut en avoir d'autres, mais pour moi, Fratesi, c'est encore aujourd'hui un joueur qui va venir soit t'enflammer un peu une dernière demi-heure, qui va venir un peu te soit ou alors te faire souffler des titulaires sur un dernier match, mais c'est pas encore un titulaire indiscutable pour moi, que ce soit à l'Inter ou même en sélection.
C'est
Et
ce
on
qu'on
l'a vu.
appelle un joueur de banc.
Oui, mais qui le fait bien, effectivement, on le voit aussi bien national qu'en Serie A. Il a cette capacité aussi à entrer vite dans les matchs, ce qui est pas une qualité qui appartient à tous. Il est intéressant là-dessus aussi. Même question, Antoine, Chiesa, du coup, dans le 11 ou pas? Parce que Federico Chiesa, qui est le joueur qui a été le facteur X pour la victoire lors de l'Euro en 2021, il a un petit peu porté la nationale sur les derniers matchs, notamment offensivement. Mais depuis quelque temps, en club et en sélection, c'est pas ça. Et encore, bon là, c'est un match amical, on l'a dit au début, faut pas prendre... Faut pas en faire tirer tellement d'enseignements, sinon on peut dire qu'Mbappé est nul si on part du même principe, vu son match contre l'Allemagne. Donc, mais Chiesa, là, lors de ce match-là contre le Venezuela, il était dans ses deux électrons libres. Il s'écartait beaucoup à gauche pour laisser Udogie prendre d'ailleurs une position un peu plus axiale dans la construction. Mais encore une fois, décevant. Du coup, Chiesa, est-ce qu'on le sacrifie sous l'autel du système, selon toi, Antoine?
Non, maintenant il faut qu'il joue parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est le joueur italien le plus talentueux qu'on ait devant. D'autant plus c'est l'endroit où on a le plus de difficultés, ou en tout cas on a le moins de stabilité vu qu'on change d'attaquant tout le temps et qu'on ne sait pas vraiment, même s'il a pris une option intéressante, peut-être déterminante, on ne sait pas vraiment. Que ce dispositif ne lui convienne pas, on le sait, on comprend. Si on regarde ses zones de jeu, il est plus latéral que son latéral, alors qu'on lui demande d'être un peu plus. En attaque, mais bon, Chiesa, c'est un ailier pur. Hein. À la Fiorentina, quand il commence, il joue en 4-4-2 et il joue ailier droit complètement sur la ligne. À l'Euro, on gagne. Il a alterné entre le côté gauche quand Insigne repiquait un peu, au côté droit quand il a pris la place de Berardi pendant l'Euro. On sait clairement que c'est pas un joueur qui est adapté à ça, mais moi, je pense que ce genre de joueur, on parlait avant de Fratesi, qui, quand il revêt le maillot bleu, il arrive à se transcender. Il a quand même des très très bons résultats avec la sélection. Il est souvent décisif, il est souvent bon. Et je pense qu'il a peut-être aussi une revanche à prendre personnelle avec les saisons qu'il fait et la frustration qu'il a. Pour moi, Chiesa, c'est si on me demande quel joueur je mets en premier sur la feuille de match, moi je vais plus loin, je dis je mets Chiesa avant tout le monde. Voilà.
Carrément, carrément. En revanche, Nicolas, moi je suis un petit peu inquiet pour Orsolini, Politano, Zaccagni. Problème de système pour eux, parce que c'est quand même des ailiers plutôt. Et du coup, on a l'impression que si eh bien, il insiste dans ce schéma-là, il y en aura peut-être un au mieux qui pourrait jouer ailier droit, mais c'est peut-être Orsolini au final qui est aussi dans un rôle de joker, parfois même à Bologne, il est plutôt bon. Mais voilà, on a l'impression que pour eux, ça pourrait être compliqué du coup d'aller à l'Euro, non?
Oui, je pense que le système va en condamner quelques-uns. Après Orsolini, je pense que dans le système actuel avec les deux joueurs en soutien de l'attaquant, a peut-être une carte à jouer en remplaçant. Et je pense que c'est celui qui peut peut-être tirer son épingle du jeu parce que on le connaît, même si c'est un joueur qui aime bien jouer ailier droit pour rentrer avec son pied à l'intérieur et enrouler tout ça. Je pense que en soutien de l'attaquant en étant en numéro 9 et demi comme ça, il a peut-être une alternative à proposer à Spalletti.
Sachant qu'El Shaarawy n'était pas appelé, mais El Shaarawy joue dans ce rôle-là avec la Roma depuis quelques... Enfin, c'est pas une défense à 3 actuellement, c'est plus une défense à 4, mais c'est un 4-3-2-1. Et il joue dans ce rôle-là avec Dybala derrière Lukaku, où il est bon, il peut aussi jouer piston gauche, El Shaarawy. Donc pour moi, il a une carte à jouer peut-être dans une liste aussi. Et puis Andrea, dis-moi ce que tu en penses, mais Raspadori, il n'est pas neuf. Il doit jouer derrière l'attaquant, non, il doit jouer dans ces deux-là, si on garde ce schéma-là. Et l'attaquant, c'est Retegui. Et en deuxième choix, on a Scamacca, on a... Alors, Luca s'est blessé, donc on n'a pas pu être testé. On a Immobile, qui fait une mauvaise saison. Et puis après, on arrive à du Pinamonti ou du Keane, qui fait enfin, mauvais signe. Il n'a pas encore marqué avec la Juve cette saison, donc un peu problématique. Mais voilà, mais Raspadori, c'est pas neuf.
Ah, je pense que c'est d'ailleurs l'une des conséquences aussi du changement de système. C'est déjà d'une part parce que les équipes jouent comme ça derrière en Italie, mais c'est aussi parce que devant, il y a un tel désert qu'on en revient dans un podcast sur la nationale et se désoler de l'absence des déboires d'Orsolini et de Zaccagni, qui sont des bons joueurs, mais qui ne sont pas des joueurs du niveau international. Donc, je pense aussi que Spalletti aussi bricole avec ce qu'il a d'une certaine manière. Hein. Ça semble quasiment sûr qu'on aura Retegui. Je pense que Raspadori n'a pas marqué des points sur ce rassemblement, mais sur les précédents mois, a toujours su se montrer quand même assez décisif. notamment face à l'Ukraine. Donc je pense qu'il sera dedans parce que aussi Raspadori, c'est un peu son problème, c'est on ne sait pas trop où il joue en fait. On ne sait pas trop si c'est un attaquant, si c'est un numéro 10, si c'est un 9,5, si c'est un joueur qui va jouer à côté d'un autre attaquant. Il a un profil assez particulier qui pourrait se retrouver, je suis un peu d'accord avec toi, dans ces trois de devant avec un peut-être un peu plus de liberté entre l'attaquant et le milieu de terrain, parce qu'il a une qualité technique quand même qui lui permettrait, je pense, d'être l'un des relais entre le milieu et l'attaque. Et il a aussi une finition qui est précieuse et qu'on n'a pas beaucoup actuellement en national. Et puis après, bah, sur le poste d'attaquant devant, je pense que voilà, y a un boulevard pour Etegui, pour la simple raison que, et d'ailleurs on l'a encore vu sur ce rassemblement, il est très bon dans la surface. Il a une capacité à se retourner qui est très très intéressante. Il a une forme de spontanéité qu'on a moins vu chez Immobilier sur les derniers mois. En tout cas en sélection, parce qu'en championnat il l'avait, mais Immobilier c'est un joueur de profondeur, alors que Retegui, tu sens que c'est un gars au niveau de la surface, au niveau du point de pénalty, qui est un peu ce forme un peu de neuf à l'ancienne, avec beaucoup de grinta, avec une forme de précision de précision qui est assez intéressante. Et puis après. Je pense qu'il prendra Scamacca pour des raisons de profil, parce que c'est bien d'avoir un attaquant assez grand, mais Scamacca, moi pour l'instant, c'est une déception parce que je l'attendais plus haut que ça. Et voilà, et peut-être qu'il y aura une surprise, peut-être un Lorenzo Lucca pour faire plaisir à Nicolas Wagner, je ne sais pas. Mais je suis pas. Honnêtement, c'est pas malheureusement, c'est pas sur la ligne offensive qu'on va avoir beaucoup d'espoir, je pense, cet été. Vivement les coups de pied arrêtés, je pense.
Ouais, effectivement. Vivement les corners, les coups francs pour avoir un coup de tête d'un défenseur ou les milieux de terrain qui ont marqué encore lors de ce rassemblement avec Pellegrini, Barella. Bon, mais si je résume notre 11 idéal, on va dire c'est Donnarumma gardien, la défense avec Acerbi, s'il est là, ou Mancini. À gauche, Bastoni à droite, ce sera un petit peu le seul rôle avec de l'incertitude. On peut partir sur Darmian, mais on pourrait aussi avoir du Scalvini ou du Gatti. Les pistons avec donc Di Lorenzo et Di Marco, milieu de terrain, Barella, Jorginho, Pellegrini et Chiesa en soutien de Retegui. En 10 secondes, Antoine, petit point fashion victime. Tu as
Victime
déjà les
incomplète.
maillots de la nationale. Ils sont comment en vrai? Puisque moi, le blanc, je ne trouve pas foufou. Mais voilà, dis-nous ce que tu en penses en vrai. Toi qui les as vus, qui les as touchés, qui les a mis.
Ah, moi j'aime bien. Après, je sais que j'en ai parlé avec d'autres personnes au travail, notamment vu que j'ai quelques Italiens. Évidemment, ça ne plaît pas forcément toujours. Après, moi je pars du principe, je pense qu'on serait d'accord avec moi pour certains, j'espère. De toute façon, un maillot italien n'est pas là pour plaire, il est là pour s'acheter et pour se porter. Donc. On va le mettre et on va espérer qu'il porte chance. Après, voilà, là, ça fait un petit clin d'œil à la Coupe du Monde 2006 avec le design de Timeguest. Donc, en plus, ça nous a porté chance. Donc, il faut le prendre comme ça. Moi, je trouve que c'est des beaux maillots. Après, c'est toujours un gros débat. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont beaux. C'est sûr que par rapport, par exemple, à celui de la France où ils ont mis une dinde sur les cuissons à la place d'un coq, je comprends qu'il y a un peu de frustration. C'est comme ça.
Et puis une petite parenthèse formule avant de se quitter.
Affronta l'ultima curva, El Matador, El Matador, El Matador, Carlos Sainz vince di forza il Gran Premio d'Australia. Buongiorno Italia, 1-2, 1-2, 1-2 Ferrari, una doppietta che mancava in Australia dal 2004.
Puisque ce dimanche a été marqué le matin par le doublé de la Ferrari à Melbourne, donc avec le succès eh bien, de Carlos Sainz devant Leclerc, donc doublé. Victoire de la Rossa et des Azzurri le même jour, ce n'était pas arrivé depuis le 30 mai 2004. Un Tunisie-Italie 4-0, donc match amical, et le doublé de Schumacher-Barrichello au Grand Prix d'Europe de Formule 1. Donc voilà, comme c'est. Est-ce que tu suis la Formule 1, Andrea, d'ailleurs? Parce qu'on sait que pour les Italiens de naissance, en tout cas d'origine, souvent la Rossa, la Ferrari, c'est quelque chose d'important.
Bien, pas du tout. Je me suis rendu récemment à Monza, tu vois, je suis même pas allé voir le
Le Grand
circuit.
Prix, ben oui, le circuit.
Mais je respecte, c'est une passion totalement respectable, etc. Mais moi, je suis pas du tout touché par les sports automobiles. Mais bravo à Ferrari, du coup.
Bon, mais je passe la balle du coup à Antoine. Mais alors, Monza, d'ailleurs, allez au parc de Monza, parce que d'ailleurs, tu n'as pas fait le parc où il y a le circuit, et c'est le plus bel endroit de la ville, donc où il y a la maison royale et compagnie. Donc, il y a même Bonaparte qui a séjourné dans ce château. Donc, voilà. Mais Antoine, la Rossa qui gagne, le même jour que les Azzurri, le même jour que Sinner, enfin, ça a été un sacré dimanche pour l'Italie.
que de succès pour la diaspora italienne en ce week-end. Et d'ailleurs, je vais même plus loin, parce qu'on parle de succès. J'ai aussi parlé du succès de notre petit Andrea qui a eu un prix sympathique la semaine dernière. Donc, apparemment, être italien, ça porte chance en ce moment. Donc c'est cool, hein. Bravo, mon petit Andrea, pour ton prix, pour ton article sportif de l'année. D'ailleurs, si on peut, on va le partager sur le Pronto Calcio parce qu'on est fiers de mettre en avant nos Italiens qui réussissent. Hein. C'est tellement rare en ce moment. Donc, il faut le souligner.
Tu m'as devancé, Andrea Chasi, effectivement, qui a eu le prix du meilleur article. C'est l'UJSF, le syndicat des journalistes sportifs français, qui tous les ans eh bien, met à l'honneur les meilleurs journalistes et les meilleurs articles. Et qui a donc Andrea qui a gagné pour meilleur article pour un journaliste au moins de 30 ans, puisque Andrea est très talentueux et en plus il est jeune. C'est le plus jeune de nous quatre. Donc bravo, Andrea.
Merci les gars, je ne m'attendais pas à ça ce matin. Ouais, vous me faites rougir, mais ça me fait plaisir que vous en placiez une là-dessus. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le seul article que je n'ai pas écrit sur le foot de l'année. Ça montre bien qu'une expertise extraordinaire de ma part sur le football. Voilà, c'est pour ça que je fais ce podcast.
Tu peux nous dire deux mots sur l'article d'ailleurs?
Oui, bien sûr, c'était dans le cadre l'année dernière d'un numéro sur les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Moi, quand j'étais petit, Yannick Noah, c'était un chanteur, pour vous donner à peu près l'âge que j'ai. Donc, j'ai appris à le connaître au fil des années. Et du coup, j'ai juste, en faisant des recherches sur lui, j'ai vu qu'il était né à Sedan. Ce qui m'avait, comme ça, j'avais tilté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit né là. Je pensais qu'il était né, je sais pas, à Paris ou à Yaoundé au Cameroun. Enfin, voilà, autre part, mais pas à Sedan. Donc, je me suis intéressé un peu à ce qu'il rattachait à cette région et à ce département que je trouvais enfin, que je trouve qui est trop souvent oublié malheureusement pour diverses raisons. Et du coup, voilà, l'intérêt de l'article, c'était de savoir comment parfois, expliquer ses racines ardennaises, mais comment parfois Yannick Noah se sert un peu de l'image qu'il a là-bas pour son image personnelle, et comment aussi ce département essaye de se trouver une forme d'ambassadeur pour continuer un peu à exister tout court, parce que malheureusement, ils ont tout perdu, que ce soit socialement ou même à tous les niveaux. Donc voilà, c'était d'aller là-bas et d'essayer de raconter ça.
Bien, bien, bravo encore. Et on sait que tes talents aussi pour ce qui est justement cette partie un petit peu plus sociale. Je me souviens d'un article sur la Clémonaise que tu avais écrit lors d'un reportage, notamment parmi tant d'autres. Et voilà, où c'est pareil, tu avais bien axé sur le côté aussi sociétal. Donc, ben, bravo à toi, Andrea. On te remercie bien d'avoir été avec nous en ce lundi 25 mars pour parler de la nationale.
Bah, merci à vous, les amis, c'est toujours un plaisir. Et puis, quand vous voulez, c'est toujours top.
Et ben, on te réinvitera très, très prochainement, ça n'en doute pas. Nicolas Wagner, merci beaucoup.
Merci à vous et je crois que je suis le seul de nous quatre à avoir vu la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. J'étais petit, mais je m'en rappelle.
Ben petit, petit, t'avais 25 ans, mais bref.
Déjà.
C'est ça. Non, trêve de plaisanterie. Antoine Aiello, merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous.
Merci à vous les gars, toujours un plaisir.
Et puis, ben, on se quitte comme on a commencé avec une chanson qui a une petite odeur de national avec Nostra Stupida Canzone d'Amore du groupe The Giornalisti. Et le chanteur, c'est Tommaso Paradiso. On se quitte en espérant pouvoir dire c'est la nationale del 2024 dans quelques mois, on verra. Il nous reste à vous souhaiter une bonne semaine. Puis le championnat revient samedi et lundi, puisqu'il n'y a jamais de match le dimanche de Pâques en Italie. Vous savez, l'église, c'est au-dessus de tout. Donc nous, on se retrouvera ben, le mardi, forcément, pour le débrief sur la 30e journée de Serie A. Il y aura un petit épisode sur la Juve aussi cette semaine. On va parler de Max Allegri avec Vito. Et puis Nicolas et Antoine, vous nous préparez aussi un petit épisode série C, je crois.
Oui, un petit épisode série C sur Perugia.
Voilà, comme ça vous savez tout. On ira donc en Ombrie avec vous. Très très bonne semaine et à bientôt. Ciao ciao.